dans un contexte de tension entre la Syrie et la Turquie, en raison de la forte présence de terroristes soutenus par Ankara dans le nord de la Syrie, des sources d'information font état d'une conversation entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Si cette nouvelle a été confirmée par la partie syrienne, la question se pose de savoir si ce dialogue est un prélude à la normalisation des relations tendues entre les deux pays. Bien que la Turquie insiste sérieusement sur l'objectif de combattre les organisations satellites du PKK, elle a dépensé des milliards de dollars pour armer et équiper des terroristes et des opposants politiques en Syrie afin de les amener au pouvoir en tant que bras politique de la Turquie à Damas. Assad peut-il croire Erdogan ?
Tout d'abord, il faut regarder la situation sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, la Turquie occupe des pans entiers du nord syrien sans y avoir été invitée par le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc comment peut-on imaginer une seconde, au-delà des contacts qui, bien sûr, ont lieu au niveau des renseignements militaires, puisque en l'absence de relations diplomatiques, c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir encore de la communication, bien qu'il peut y avoir même une rupture totale. Enfin, la question demeure, comment peut-on imaginer une quelconque forme de dialogue avant que, comme condition préalable, il n'y ait un retrait unilatéral de la Turquie à l'intérieur de ses propres frontières, une déclaration officielle d'Ankara portant sur sa responsabilité dans la situation que la Syrie vit depuis plus d'une décennie maintenant, et une proposition, une offre de compensation pour la destruction humaine et matérielle que cela a engendré. Moi, je pense qu'en absence de ces trois points, il est inimaginable de concevoir, au niveau officiel en tout cas, un quelconque processus visant à réconcilier, si je puis dire, enfin, je n'allais même pas dire normaliser, mais oui, réconcilier des positions qui sont complètement disparates et opposées. Maintenant, si on prend la situation telle qu'elle est, à savoir ces appels du pied timides, hein, je pense que les Russes sont certainement poussés pour ça et que, bon, comme tout se tient, on ne peut pas ignorer la dimension russe et aussi les efforts diplomatiques répétés de la République islamique d'Iran vis-à-vis d'Ankara quant à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de solution militaire, eu égard en tout cas à ce qu'eux présentent officiellement comme un risque terroriste fantasmé à leurs frontières. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans une situation où il faut le rappeler, il y avait eu une réunion des pays non alignés à Belgrade en octobre 2021, qu'effectivement, c'est cette réunion et cette. On va dire c'est ce bref échange entre Faisal Miqdad, le ministre des Affaires étrangères syrien, et Cavusoglu, donc le ministre turc. Bon, effectivement, après on peut imaginer tout un tas de choses, mais enfin je pense que chacun, et surtout du côté de Miqdad, il n'avait pas l'autorisation de son gouvernement pour parler aux Turcs, donc on peut imaginer que ces allusions de Cavusoglu ne sont pas substantiées de manière. Voilà. Ce qui est certain, c'est que la réalité, c'est que l'année prochaine, il y a une élection très importante en Turquie, à bien des égards, une élection présidentielle qui espère Erdogan de se faire réélire, et malgré un contexte économique extrêmement difficile pour lui. Mais malgré tout, dans le contexte de la célébration du centenaire de la Révolution turque, donc il y a politiquement énormément à jouer pour lui, les enjeux sont énormes, et c'est ce qui l'a motivé à, j'allais dire, se tirer une balle dans le pied auprès de son opinion publique, parce qu'il sait très bien que la question des réfugiés syriens est une question épineuse en politique interne, après toutes ces années, ça a été un drain sur le trésor turc, et qu'une façon pour lui de pouvoir alimenter une campagne présidentielle qui s'annonce des plus compliquées, en tout cas sur le plan économique, serait de mettre en avant le fait que une partie en tout cas des dépenses sur ce dossier va être répercutée en créant, si vous voulez, cette espèce de zone dont il a parlé depuis le mois de juin maintenant, où il espère transférer pas moins d'un million, un million et demi des 4 millions de réfugiés qui vivent en Turquie. Après, la question qui se pose, c'est toujours la même avec la Turquie et son tropisme, si je puis dire, visant à turquifier les sphères comment dirais-je, les territoires autour de son pays. Et on peut penser que beaucoup des gens qui sont partis là-bas sont des gens qui avaient des affinités avec la Turquie. Et que après toutes ces années passées là-bas, on peut penser qu'à la lumière d'un soutien financier, ils seraient redevables d'Ankara. Donc, dans la composition ethnique délicate qu'a toujours constituée la Syrie, comment cette politique de repeuplement proposée par Ankara peut être perçue par Damas, si ce n'est que comme un potentiel cheval de Troie qui, pour le temps présent, bien sûr, ne serait pas un danger immédiat, mais on connaît la situation dans cette région, les Turcs l'ayant occupée pendant des siècles, et c'est toujours la même façon pour eux de procéder, c'est-à-dire qu'en fait, ils implantent des gens qui n'ont rien à voir avec la région, quelle que soit la région du pays, et quand le moment opportun se présente, ils activent ces gens-là en les manipulant sur... Vous voyez, des questions religieuses ou des questions ethniques, vous voyez, et c'est toujours le même levier. Quand on voyage en Syrie, on parle à différentes sectes et on comprend le mode opératoire d'abord des Ottomans et ensuite des Turcs. Donc, Damas, le gouvernement de Damas connaît parfaitement son histoire et il essaye de garder la main sur la façon dont le pays est agencé au niveau de ses communautés. Il ne peut pas y avoir un bloc homogène qui serait le résultat de cette politique d'ingénierie sociale à la turque. Parce que dans ces cas-là, on se retrouverait confronté, encore une fois, dans 10, 15, 20 ans, à une situation intenable. Donc pourquoi faciliter dans ce contexte-là cette politique en ce qui concerne Damas? Ça n'a aucun sens. Il faudrait pour cela que déjà les territoires que la Turquie, l'armée turque occupe, soient remis à Damas. Ce serait un premier pas important, avec peut-être une réactivation des accords d'Adana sur le fait que chacun prend soin de garder la main sur sa population kurde, puisque du côté d'Ankara, ça semble être quand même une obsession. Et à partir de là, Damas serait en mesure de réagencer les territoires libérés de la présence turque, de telle sorte qu'on puisse après commencer à discuter d'un retour des réfugiés syriens vivant en Turquie, oui, mais selon les termes de Damas et pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est, je pense, un peu le problème. Il faut prendre le problème par le bon bout en prenant en compte la dimension historique de la relation bilatérale entre ces deux pays et de l'histoire turque et de son tropisme ottoman. Hein. C'est quelque chose qu'il ne peut pas. N'oubliez pas qu'au travers. Alors après, bon, on rentre dans des considérations qui impliquaient à l'époque le traité de Lausanne et les puissances occidentales après le démantèlement de l'Empire ottoman. Mais cette question épineuse d'Iskenderun, par exemple, n'a jamais été acceptée par Damas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette péninsule appartient à la Syrie. Et malgré tout, la Turquie a réussi à, quelque part, faire pencher la faveur, enfin, la balance en sa faveur en convainquant les Occidentaux. Alors de manière explicite ou implicite, je n'étais pas présent aux négociations, mais toujours est-il que, voilà. Donc, vous voyez, il y a une histoire entre ces deux pays. Et les deux, enfin, en tout cas, ici à Damas, on connaît son histoire. Hein. Le gouvernement connaît parfaitement l'histoire. Et il y a déjà beaucoup de contentieux. Et pour Ankara, de penser pouvoir. Comment dirais-je, offrir une soi-disante branche d'olivier au travers de ce dossier éminemment épineux. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi une politique de sanctions féroce exercée à l'encontre de la Syrie, que 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, que 80% de la production journalière de pétrole est systématiquement pillée par les Américains. Donc, avant de commencer à faire revenir des réfugiés à l'échelle qu'Ankara semble évoquer, encore faut-il avoir les moyens aussi financiers et matériels d'accueillir ces citoyens syriens de telle sorte que ça ne soit pas, en fait, je veux dire, quelque part, un risque politique pour Damas. Vous comprenez ce que je veux dire? Politique et partant de là, sécuritaire. Vous voyez? Donc, tous les dossiers se tiennent. Discuter, effectivement, avec les pays où les réfugiés syriens se trouvent en masse, que ce soit la Turquie ou le Liban, il faut commencer à discuter avec les partenaires. Et d'ailleurs, un cycle de pourparlers a été initié en novembre 2020, avec une première réunion de ce genre, qui normalement devait marquer le début d'un cycle de discussion sur le sujet. Mais il faut garder à l'esprit que le dossier des réfugiés, du retour des réfugiés, est intimement lié au dossier de la levée des sanctions. Hein? L'un ne va pas sans l'autre, quelque part. Je ne vois pas comment vous pourriez convaincre les Syriens vivant à l'étranger de rentrer en Syrie dans la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement.